fait tout pour oublier la terrible fusillade dont a été victime sa sélection à son arrivée en Angola. Le portier des éperviers avoue qu'il ne s'intéresse pas à la CAN, Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Angola.
Merci Christian Mbakalumba. On voulait suivre à présent le magazine économique Éco d'économie avec Jocelyne Moussa Opondé.
Éco d'économie, Jocelyne Moussaou.
Bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer sur l'actualité économique. Mimi Kindou est à la mise en onde, Daniel Tambinzoni est là pour nous donner les nouvelles.
Il se tient à Mbandaka en Équateur un forum sur la gestion des forêts. Pour en savoir plus, nous allons avoir dans deux minutes Henri Lobonto en ligne. Et puis, combien faut-il pour organiser des funérailles dignes pour un parent à Kinshasa? En tout cas, le coût de l'organisation d'un deuil, c'est le reportage que nous vous proposons dans la deuxième partie de Écho d'économie.
Également dans la seconde partie de cette émission, nous recevons Célestin Bekabissia, président de la FEC Otuélé. Il va s'exprimer sur le coût de la vie très élevé à Isiro. La Banque centrale du Congo a réuni pour la première fois aujourd'hui son comité de politique monétaire rénové.
C'est un comité élargi aux experts de la présidence de la primature des ministères des Finances et du Budget, réuni sous la présidence du gouverneur de la Banque centrale du Congo. Ce comité est parvenu aux conclusions après examen du cadre de pilotage de la politique monétaire. Les prix sur le marché jusqu'au 21 janvier sur le marché de biens et de services ont augmenté de 2,04%. Une légère dépréciation du taux de change, selon Jean-Claude Massangou, a été également observée pendant la même période sur les marchés de change, notamment sur le marché bancaire et sur le marché parallèle. Dans ses recommandations au gouvernement, le comité a réitéré la poursuite d'exécution du plan de trésorerie sur base caisse en vue de prévenir toute détérioration de la position du gouvernement. Il est aussi demandé à ce même gouvernement de fournir au sous-comité toutes les informations utile sur les dépenses de l'État en prévision de la liquidité.
Après l'Assemblée nationale, le projet de loi portant ouverture des crédits provisoires pour l'exercice 2010 a été également rejeté hier au Sénat.
Le projet de loi budgétaire a également été examiné en deuxième lecture par la plénière de l'Assemblée nationale. Il vient d'être transmis aujourd'hui à la commission ECOFIN du Sénat. Celle-ci a déjà entamé l'examen de ce rapport pour analyser et apporter des amendements au travail réalisé par la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement. C'est demain samedi que le débat sur ce projet sera ouvert.
La Fédération des entreprises du Congo, Mbandaka, dénonce la taxe perçue par l'Office congolais de contrôle.
Cette taxe, baptisée taxe de transaction locale, et est perçue dans différents ports de la ville sur certains produits manufacturés en provenance de Kinshasa à destination de l'intérieur de la province. Elle est aussi prélevée sur les produits agricoles tels que maïs, riz, cossette de manioc, bref, sur tout produit qui entre dans la ville et qui en sort. La FEC juge cependant illégale cette perception de la dite taxe. L'Office congolais de contrôle, de son côté, dit agir dans la légalité, et cela conformément à une recommandation des autorités provinciales.
Et pour terminer ces informations nationales, le prix du sucre a augmenté sur les marchés de Lubumbashi.
Il a presque triplé. Le président de la FEC, Katanga, attribue cette situation à l'arrêt de production observé au Malawi et en Zambie. Pays d'approvisionnement des commerçants de Lubumbashi. De janvier à juin, explique la FEC, les sucrières de ces deux pays sont fermées pour permettre la culture de la canne à sucre.
La nouvelle économique au bout du fil.
Nous sommes à Mbandaka pour cette nouvelle au bout du fil. C'est Henri Lobondo qui est en ligne. Avec vous, Henri, nous parlons de ce forum provincial sur le mode de gestion des forêts des communautés locales. Pourquoi cet atelier, Henri?
Oui, Jocelyne, selon l'abbé Dieudonné Louo, président de la commission diocésaine pour les ressources nationales à Bassankoussou, l'objectif de cet atelier est de voir les forêts jouer un rôle moteur dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural. La commission justice et paix voudrait ainsi voir les communautés locales bénéficier des revenus substantiels dans l'exploitation de leurs forêts à travers un mode de gestion viable élaboré par le ministère de l'Environnement.
Et sur quoi se fonde le projet de mode de gestion de forêts communautaires du ministère de l'Environnement, du gouvernement central qui supervise ces assises?
Le projet mode de gestion des forêts communautaires locales, à en croire Prosper Citoyen-Sédois, se fonde sur le principe selon lequel les forêts communautaires n'ont jamais été reconnues en tant que telles par la législation congolaise. Ce projet, dit-il, est une contribution à la conception d'un modèle innovateur capable de permettre aux communautés locales qui vivent à la lisière des forêts d'y développer des activités génératrices des revenus. Les forêts ont donc le potentiel de générer des revenus directs pour les communautés locales et constituent un outil déterminant pour le développement durable des milieux de ces communautés.
Mais pourquoi parle-t-on aujourd'hui de la gestion des forêts par les communautés locales?
Jocelyne, selon Théophile Gata, directeur adjoint de l'ONG britannique Forest Monitor en République démocratique du Congo, avec la loi Bakajika, les forêts sont une propriété de l'État. Elles sont donc gérées par l'État tant pour la conservation de la nature que pour l'exploitation forestière, ce qui provoque des conflits entre les communautés locales qui réclament leurs droits sur ces espaces et les exploitants forestiers partenaires de l'État. Pour ce faire, le législateur congolais a pensé depuis 2002 que l'État peut désormais, sur demande des communautés locales, leur céder des espaces qu'ils peuvent gérer selon leur mode traditionnel.
Merci beaucoup Henri Lobondo pour cette intervention. Bonne soirée chez vous.
Je vous en prie, Jocelyne.
Info économique en Afrique et à travers le monde.
C'est avec vous, Daniel Tambinzoni. L'Inde pourrait devenir le principal acheteur de charbon en Afrique du Sud.
Pour la première fois, l'Inde pourrait dépasser l'Europe en devenant le plus gros acheteur de charbon sud-africain en 2009. Selon Raymond Chirois, directeur général du terminal à charbon Richard Bay, le niveau des expéditions vers l'Inde et l'Europe durant les 10 premiers mois de 2009 était similaire, tandis que les quantités exportées durant les 2 derniers mois sont en phase d'être calculés.
Et les États-Unis d'Amérique veulent soutenir la réadmission du Zimbabwe au sein du Fonds monétaire international.
L'ambassadeur des États-Unis au Zimbabwe, Charles Bray, a déclaré que Washington va soutenir le rétablissement du pays au niveau du Fonds monétaire international pour ses droits de vote, ce qui pourrait permettre à ce pays d'accéder à une aide financière auprès des bailleurs de fonds lors du prochain conseil d'administration du FMI. Le FMI, tout comme la majeure partie des autres institutions financières de l'Ouest, avait cessé de financer le Zimbabwe depuis des années. Le président zimbabwéen Robert Mugabe était notamment accusé par les États-Unis d'Amérique et l'Europe de porter atteinte aux droits humains et de prendre des mesures sévères à l'encontre de ses opposants.
Merci Daniel pour ces informations. Voici la seconde partie de Écho d'économie.
Écho reportage.
Perdre un être cher aujourd'hui à Kinshasa devient un fait aux conséquences affectives et surtout économiques incalculables. Les différentes étapes allant de la morgue au cimetière fait saigner de façon systématique les porte-monnaies des familles endeuillées. C'est le reportage que nous propose Blaise Makassi.
Le modèle tout bien rendu bic rouge, c'est à qui il y a miroir, yango. Ils ont valoir en abassa $50 à $200. Tous en abassa qui à bois noir.
Qui sait si des pleurs aigus entendus lors des cérémonies funéraires ne traduisent pas les inquiétudes économiques liées au remboursement hypothétique des différentes sommes empruntées afin qu'elles soient enterrées dans les bonnes conditions le cadavre. En fait, il n'y a pas de commune mesure entre le revenu intermédiaire du Congolais moyen et les prix sur le marché des effets accompagnant les cérémonies funéraires. Ainsi, par exemple, quand vous perdez un membre des familles, vous êtes contraint de débourser $10 américains pour obtenir des documents d'autorisation auprès de la commune, $10 américains par jour pour la conservation à la morgue, $20 américains pour embaumement, $35,000 francs congolais pour acheter les trous au cimetière, $22,500 francs congolais soit 2 casiers de bière pour ceux qui creusent le trou et enterrent le mort, $100 américains pour la location du corbillard, $50 pour la location de la chapelle ardente, $50 pour achat de la couverture, $25 américains pour la location du groupe électrogène, $50 américains pour la location de la musique, $200 à $300 américains africains si l'on doit louer une salle, 20 000 francs congolais si l'on doit louer 200 chaises en raison de 100 francs congolais par chaise, un minimum de 100 000 francs congolais pour l'achat de la boisson, sans compter les frais qu'il faut débourser pour la location des tentes, fanfares, véhicules, achat des croix, uniformes, vestes ou voiles, café, couronne des fleurs, pour ne prendre que ces cas. Mais que coûte un cercueil? Tentative de réponse avec Théodore, tenancier de la pompe funèbre Eléa.
Bon, le moins bas, ils en ont valeur, il y a $50. Le plus bas, ils en ont valeur, il y a $450. Bon, bah, modèle, les ébélés, tous en ont, modèle, tout bien, rendu, bic rouge. C'est à qui, il y a miroir, yango, ils ont valoir, on a $150 à $200. Tous en ont, c'est à qui, à bois noir. Au batou, bazou préférant, ming ming te, yango zote gama de $100 à $130. Tout ça n'a pas cerqué, oh, mikolo, le gens préfèrent, le type américain, yango zaba bombe, yango an zote gama de $400 à $450, n'a pas cerqué, moussou tobenga, bah, sans souci, yango an ape de $450 à $500. Bah, ex, bah, modèle, moussou de tiamouze, bah, cerqué à tout blanc, yango zote gama de $300.
Certaines personnes éprouvées voient les choses différemment des autres. Elles préfèrent recourir aux opérateurs privés qui disponibilisent les trous à carreaux moyennant une somme nageant entre $1,500 et $2,000 américains. Ces camps sont souvent pris d'assaut par ceux qui disposent des moyens et qui ne veulent pas voir leurs êtres chers être confondus au commun des mortels. Comme pour dire, entre riches et pauvres, l'inégalité continue même au cimetière. D'autres préfèrent immortaliser les leurs par la pose d'une pierre tombale. Et là encore, les démunis ne sont pas les bienvenus. Explication de M. Achille, vendeur de pierres tombales à l'Embafoire.
Nous avons trois qualités. Nous avons marbre, nous avons granito, nous avons granit, nous avons carreau. Il y a bien marbre normalement au Kenya. Tout à 1000 dollars, 800, 750 pour le marbre importé. Donc, granit, ce que vous avez 500, 450 pour le bon, granito, tout ça, le granito est bien, il y a bien ce moko, avec 450 pour le bon. Alors, carreau, tout vous avez 350.
Si on doit se livrer à un petit exercice de calcul, l'on atteint facilement par cérémonie funéraire une somme qui dépasse les $3,650 américains.
L'entretien de ce soir.
Nous nous entretenons ce soir avec Célestin Bekabissia, président de la FEC Otuélé à Isiro. C'est à 580 kilomètres au nord de Kisangani. Vous avez compris, c'est dans la province orientale. Cette ville, autrefois capitale de l'or vert, le café d'Anc, est devenue un enfer en raison de la cherté de la vie. Tout il coûte extrêmement cher. Un sac de ciment, par exemple, se vend entre $50 et $60 américains. Monsieur Célestin Bekabissia, vous êtes président de la FEC dans ce coin. Comment expliquer cette hausse exponentielle de prix à Isiro?
Nous sommes enclavés depuis 1992. Il n'y a plus de route à Isiro. Alors, nous avons assisté au commerce par avion. Ce sont des avions qui sont venus acheter, transporter les huiles de Parme, nous amener les haricots, les carburants, le poisson salé, la graisse, les ciments, la bière, un peu de tout. Alors nous sommes restés longtemps dans cette situation jusqu'à aujourd'hui. Et dès il y a eu le RERA, phénomène RERA qui est survenu, qui a bloqué la route qui mène d'Isiro Aba Ariwara via Dungu, occupée depuis le 25 décembre 2007, et les gens ne pouvaient plus passer là-bas, alors c'est l'avion qui est resté.
Tout doit arriver par avion, hein, comme vous le dites, mais il y a aussi la production agricole. Est-ce qu'il n'y a rien qui est produit sur place à Isiro? Vous avez parlé de l'huile de palme, par exemple, de l'haricot, mais que produit Isiro sur le plan agricole?
Oui, Isiro produit ici, la terre est fertile et toutes les saisons arrivent. Nous produisons le paddy, soit le riz, nous produisons le maïs, nous produisons l'ananas, les soja, les haricots, pour la subsistance. Mais les remises de sol, par exemple, quand ça doit se vendre à Isiro aujourd'hui, tout le monde est alerté, tout le monde est vigilant. Quand elles amènent des bottes de feuilles de manioc, elles vendent à 20 francs, à 50, à 100 francs. Mais au retour, elles doivent acheter du sel, elles doivent acheter du savon, elles doivent acheter les haricots, par exemple, ou autre chose. Mais elles trouvent que il n'y a pas longtemps, une femme devait vendre 5 bottes de sel pour acheter un peu de savon. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Cette femme est carrément aussi faite de quartier.
Isiro, c'est quand aussi parmi les contrées productrices de l'or et de diamants. Et comment se portent ces secteurs-là actuellement?
Vraiment un sous-sol très riche. On trouve des diamants, on trouve de l'or, du coltan. Mais les difficultés, c'est quoi? Et si nous avions une route, et une route bénéfique, c'est-à-dire les marchands, les commerçants, les opérateurs économiques doivent amener des marchandises, beaucoup de marchandises, tout de suite le prix tombe.
Et au regard de cette situation, est-ce qu'on peut encore espérer à une relance de l'économie du Haut-Ouélé?
Oui, puisque tout est là, madame, tout est là. Les hommes sont là, les terres sont là, toutes les richesses sont là.
Mais qu'est-ce qu'il faut que ça commence. Qu'est-ce qu'il faut, quel chemin il faut parcourir pour y arriver?
Ah oui, mais la proposition, si elle doit venir de la Fédération des entreprises du Congo que nous représentons, mais nous n'avons jamais cessé, nous avons toujours supplié, même prié le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour qu'il touche les cœurs des décideurs, qu'on nous donne la route. Isiro Nyanya, c'est 220 kilomètres. Qu'on ouvre d'abord cette petite route-là. Dès que nous avons cette route, évidemment, nous n'aurons pas vu les cieux, mais c'est un ouf de soulagement. Nous allons respirer.
Célestin Bekabissia, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes président de la FEC Haut-Ouélé. C'est avec vous que nous terminons Écho d'économie de ce soir. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous lundi 18h15, heure de Kinshasa. Bonne soirée et surtout bon week-end.